VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En Afghanistan, au moins 80 morts et des centaines de blessés. Tel est le bilan d'un attentat au camion piégé aujourd'hui en plein cœur du quartier diplomatique de Kaboul, la capitale. La cible exacte du kamikaze au volant du véhicule n'est pas claire, selon le ministère afghan de l'Intérieur. L'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'à présent et un porte-parole des talibans a indiqué sur Twitter que son groupe condamne l'attentat et n'y est pas impliqué. Au Kenya, 4 policiers tués, 2 portés disparus et un civil qui a perdu la vie. Tel est le bilan de l'explosion d'une bombe artisanale dans le nord-est du pays, près de la frontière somalienne. C'est ce qu'annonce ce mercredi un responsable de la police. La semaine dernière, 14 policiers avaient péri dans 3 explosions provoquées par des bombes du même type dans la même région. Des attentats revendiqués par les insurgés somaliens Shebab affiliés à Al-Qaïda. Les Shebab ont commencé à attaquer le Kenya après l'intervention des militaires kenyans en Somalie en 2011 dans le cadre de la force de l'Union africaine qui combat le groupe islamiste. Le chef de la police kenyane, Joseph Boynet, a récemment mis en garde contre le risque d'une multiplication des attentats pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan. Au Rwanda, les diplomates occidentaux en poste à Kigali ne cachent pas leurs préoccupations concernant une mesure de la commission électorale visant à contrôler les publications de campagne sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle du 4 août. À preuve, leur déclaration à ce sujet, mardi, Eric Manirakiza.
L'ambassadrice des États-Unis a parlé de très très sérieuses limitations de la liberté d'expression. Erika Bax-Ruggers s'exprimait pendant un dialogue organisé par l'Union européenne en présence du ministre rwandais de la Justice. De son côté, Michael Ryan, ambassadeur de l'Union européenne, s'inquiète de savoir où les lignes sont tracées. Enfin, l'ambassadeur d'Allemagne, Peter Wurtz, se demande si la censure est la meilleure voie pour empêcher les discours de haine. La Commission électorale nationale a publié une directive prenant effet à partir du 14 juillet, date du début de la campagne électorale. Cette mesure exige à tous les candidats de se mettre au moins 48 heures avant les messages, photographies ou autres matériels de campagne qu'ils souhaitent publier sur les réseaux sociaux. L'opposition a également critiqué cette décision. Elle craint son utilisation pour empêcher toute voix discordante au régime du président Paul Kagame. 4 candidats ont déclaré leur intention d'affronter le président Kagame, mais doivent encore recevoir l'aval de la commission électorale.
Au Burundi voisin, 23 militaires burundais viennent d'être révoqués par le président Pierre Nkurunziza. Ils avaient été envoyés dans les écoles d'études militaires, mais ne sont pas rentrés au pays. Depuis 2015, un certain nombre de militaires en fonction ou en mission à l'étranger ont refusé de retourner au Burundi par crainte pour leur sécurité. D'autres ont rejoint les mouvements rebelles. Mais le porte-parole de la présidence burundaise dément que les militaires en question ont fait défection. Au reportage à Bujumbura de notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Depuis le coup d'État raté du 13 mai 2015, à la tête duquel se trouvait le général Godefroy Niyombare, certains officiers supérieurs de l'armée burundaise qui étaient en mission à l'étranger ont refusé de regagner le bercail. Comme l'ancien porte-parole de l'armée, le colonel Adolphe Manirakiza, ils craignaient pour leur vie. Depuis le 26 mai dernier, un décret présidentiel a révoqué 23 officiers supérieurs. Le porte-parole du président burundais, Jean-Claude Ndenzako, donne les raisons de cette révocation.
Les 23 officiers sont composés de 19 officiers supérieurs et de 4 officiers subalternes. Et ils étaient partis à l'étranger pour poursuivre des études de 3e cycle, spécialement en Belgique, en France et au Canada. Tous étaient d'abord inscrits en classe de maîtrise pour une période de 2 ans, avant de poursuivre un cycle doctoral de 3 ans, soit un total de 5 ans. La désertion à l'étranger est sanctionnée par une révocation.
Le vice-président du parti Frodebou, Front pour la démocratie au Burundi, Léonce Ngendakumana, estime que cette situation doit être étudiée minutieusement, sinon le pays est en train de créer des ennemis au sein de ses forces vives.
C'est un cas extrêmement grave dans la mesure où nous avons dénoncé le fait que les corps de défense et de sécurité, à savoir l'armée, la police, le service national de renseignement, étaient en train d'être instrumentalisés était en train d'être manipulé, était en train d'être détruit systématiquement sur le plan politique et ethnique. Au moment où même ceux qui ont appris à manier l'arme décident de quitter l'armée, décident de quitter la police, ou décident de rester là où ils sont, soit à mission ou aux études, c'est que la situation est extrêmement grave. Et qui sont aujourd'hui éparpillés, soit à l'intérieur du pays, soit de la population, soit à l'extérieur du pays dans des réfugiés, soit en train de s'organiser quelque part, en un mouvement, en des mouvements politiques armés. Ça, c'est un danger assez évident que le pays se trouve en insécurité, que je demande au nom du parti Sawanya Fodebo que cette question soit programmée d'urgence pour examiner toutes les voies et moyens qui permettraient de stabiliser les corps de défense et de sécurité.
Avec les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en Tanzanie en avril 2000, les différents mouvements rebelles, essentiellement Hutus, dont le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir, avaient fusionné avec l'ancienne armée majoritairement Tutsi pour former les fausses armées burundaises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, le président Joseph Kabila s'est rendu hier à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. C'est sa première visite dans cette province du centre du pays depuis le début en septembre d'une vague de violence meurtrière dans la région. Cette violence fait suite à la mort de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué l'année dernière lors d'une opération militaire, après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes de guerre commis entre 2003 et 2015 sera bientôt à pied d'œuvre après l'installation officielle de ses membres. Mais pour la société civile et les organisations des droits de l'homme, la mission de cette institution internationale judiciaire dirigée par le procureur spécial Toussaint Muntazini de la RDC doit s'étendre aux crimes commis au-delà de 2015 jusqu'à nos jours. Le point avec Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Il y a des dispositions pertinentes pour la création de la Cour pénale spéciale qui indiquent que toutes les personnes victimes peuvent saisir immédiatement le procureur spécial par une plainte avec constitution de partie civile sur des faits dont la gravité relève de la compétence de la Cour pénale spéciale. Donc il est probable que, malgré que les experts ont travaillé sur la période allant de janvier 2003 à décembre 2015, les victimes qui ne sont pas dans cette catégorie peuvent toujours saisir la Cour pénale spéciale. Les organisations de la société civile que nous sommes, nous avons de notre côté documenté des crimes, tracé la cartographie de ces crimes-là sur le territoire national. Nous continuons de recevoir les parties civiles et nous continuons de documenter des crimes que nous pensons vont être tirés par la Cour pénale spéciale.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Au Tchad, le président Idriss Déby a mis fin aux fonctions de deux ministres, selon un décret lu mardi soir à la Radio Nationale. Il s'agit du ministre de l'Aménagement du Territoire, Hamid Mahamat Dahalob, et de celui des Mines et de la Géologie, David Oudengar. Selon l'AFP, citant une source officielle qui a requis l'anonymat, les deux ministres seraient épinglés dans des malversations par l'inspection générale d'État. La première dame du Nigeria, Aïcha Bouhari, est depuis hier à Londres au chevet de son époux qui suit actuellement un traitement médical dans la capitale britannique. Le voyage de Madame Bouhari intensifie les inquiétudes sur l'état de santé du président nigérian, Tatiana Mosso.
Lundi marquait le deuxième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Buhari. Les deux premières années de son mandat ont été ternies par ses problèmes de santé récurrents et des interrogations sur ses capacités physiques à diriger le pays. En début d'année, il a été près de deux mois à Londres pour des raisons de santé avant de repartir à nouveau début mai. Les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées et son entourage est désormais totalement silencieux. Si Mohamedou Bouhari démissionne de la présidence ou s'il vient à décéder, le pouvoir reviendra à son vice-président, Yemi Osinbajo. C'est lui qui s'est rendu au sommet G7 en Italie la semaine dernière. L'absence du chef de l'État crée un vide et un manque de décisions politiques majeures, alors que le Nigeria, géant de 190 millions d'habitants, traverse une grave crise économique.
Et pour terminer l'actualité américaine, le Pentagone a testé avec succès mardi l'interception de missiles balistiques intercontinentaux continentale. L'équipe de missiles de la Corée du Nord cherche à se doter. C'est la première fois que l'armée américaine réussit ce test sur un missile intercontinental, a précisé l'agence des États-Unis en charge de la lutte antimissile. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.